Alors, nous rencontrons aujourd'hui Cesare Capitani pour un spectacle au Lucernaire qui s'intitule « Moi, Caravage ». Donc, nous avons le plaisir d'échanger dans le café à proximité du théâtre sur ce spectacle que j'ai eu le plaisir de voir la semaine dernière. Donc, si j'ai bien compris, ce spectacle est donc une adaptation d'un roman très volumineux de Dominique Fernandez. Celui-ci était-il rédigé, comme c'est le cas dans le cadre du spectacle, un petit peu comme un autoportrait ?
Oui, tout à fait. Il s'agit de La course à l'abîme, un roman de Dominique Fernandez écrit en 2003. Et c'est un récit à la première personne, donc c'est Caravage qui parle de sa vie. Et quand je l'ai lu, ce qui m'a plu justement, c'était déjà ce côté un peu... on voit souvent au cinéma, donc c'est souvent un mort qui parle, un flashback perpétuel. Et c'est le cas, parce qu'on commence mon spectacle et le roman avec mon corps, on ne l'a jamais retrouvé. Donc on comprend que c'est quelqu'un qui est mort qui parle, qui va nous raconter sa vie. Et voilà, donc c'est vraiment le récit à la première personne de ce personnage dont on ne connaît pas vraiment beaucoup. De sa vie, on connaît son art, ce qu'il a fait au niveau de la peinture, mais pas vraiment son parcours personnel.
Il n'y a pas effectivement beaucoup de traces historiques qui pourraient être des témoignages, soit du Caravage lui-même, soit de personnes qui l'ont côtoyé. Donc en fait, c'est un vrai travail romanesque de cet auteur.
Comme dit Dominique Fernandez, c'est une biographie romancée, c'est-à-dire qu'il est parti par... en utilisant des éléments qui existent, surtout des procès, et comme il a été arrêté plusieurs fois, il y a des procès, des minutes, des procès verbaux, voilà, où on écrivait, voilà, Monsieur Méris était arrêté parce qu'il a poignardé quelqu'un, parce qu'il a envoyé un plateau d'artichaut bouillant à la figure d'un serveur, parce qu'il a agressé une prostituée, parce qu'il a volé de l'argent, etc. Donc on sait ce qu'il répondait à ça, on sait exactement les temps qu'il a passé en prison, les périodes qu'il a passées dans des ateliers aussi, parce que ça, on enregistrait à l'époque les apprentis parce que le maître les payait. Donc on savait vraiment à la fin du mois combien avait coûté Michelangelo Merisi. Donc on sait tout ça. On connaît ses déplacements parce qu'on sait qu'il a peint à Rome, à Milan, après à Malte, à Naples, en Sicile. Donc on connaît ses déplacements. Après, bien sûr, tout ce qui est dialogue, rencontre personnelle, Fernandez a inventer certaines choses, mais par exemple, l'autre personnage qui a toujours vécu à côté de Caravage pendant très longtemps, pas toujours, mais pendant très longtemps, c'est Mario Bianniti, qui est un vrai peintre sicilien, un caravagesque, qui a vraiment partagé l'atelier avec lui pendant des années. Ils se sont retrouvés en Sicile, il l'a aidé dans sa dernière fuite pour fuir les chevaliers de Malte. Donc, Fernandez a eu l'habilité vraiment de mélanger le réel, le vrai, en créant une histoire vraisemblable. Donc on sait qu'il aurait pu faire ça, qu'il aurait pu dire ça, qu'il aurait pu vivre ça.
Alors, le Caravage, on le découvre dans ce spectacle et donc dans le roman dont il est tiré, un personnage assez fantasque, complètement insoumis. On l'aurait qualifié de punk s'il avait vécu dans les années 70. Avec une vie à la fois romanesque et romantique, et hantée, semble-t-il, par la mort. Hein. Tout au long du récit, on sent une espèce de fatalité comme ça, inexorable. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ?
Oui, je suis tout à fait d'accord. Il y a quelqu'un qui a vu le spectacle, il y a un moment, il avait dit « Ah, mais c'est le Amy Winehouse de la peinture !» Quelque part, c'est vrai. Il est mort jeune, à 38 ans, dans des conditions encore mystérieuses. Et c'est vrai que son parcours a été tout à fait romanesque et romantique. Romanesque parce qu'il a vécu des choses incroyables. Et ce désir, ce rapport avec la mort, quelque part, avec l'autodestruction, c'est très fort, c'est présent dans ses œuvres. Et ça aussi, c'est quelque chose que Fernandez a su saisir et le transformer en littérature et moi en théâtre, j'espère. Parce que, par exemple, il a vu que Caravage, c'est un des premiers qui met son propre visage dans les tableaux. Après, Hitchcock l'a fait au cinéma et d'autres ont fait des petits clins d'œil comme ça, mais lui, vraiment, c'est un des premiers qui se peint en témoin, en victime, mais jamais un héros. Il n'est jamais le héros positif du tableau, c'est toujours la victime, celui qui meurt, celui qui souffre. Et donc, je pense que c'est l'idée qui a traversé l'esprit à Fernandez, et moi aussi, en lisant le roman et en regardant ses peintures, pourquoi pas ne pas imaginer que justement c'est comme une victime sacrificale pour l'art, pour la vie, c'était un rebelle, donc il devait se soumettre à la volonté des cardinaux, mais en même temps, il était toujours en rébellion, en révolte contre eux, donc... oui, on le voit bien comme un écorché vif, un rebelle qui se bat tout le temps pour sa liberté jusqu'à la mort.
Alors, on découvre aussi un personnage qui était un acteur majeur de la Renaissance italienne, assez sûr de lui par certains aspects, et pourtant en filigrane une forme de doute qui est inhérente sans doute à tout travail artistique, mais qu'il exprimait lui de manière assez singulière.
Je pense que quand on lit l'histoire de grands personnages, ils sont toujours quand même un peu parcourus par des faiblesses, par des failles, des choses qui les rendent humains et faibles. Et c'est ça qui est beau dans un personnage. Si on est monolithique, que fort, c'est pas vraiment très intéressant. Donc c'est vrai, c'était quelqu'un qui se moquait des règles, il faisait exactement et tout le temps ce qu'il voulait, il en payait les conséquences. Mais j'ai l'impression qu'il était toujours en quête d'amour, d'absolu. Il avait toujours besoin d'être entouré par des maîtresses, par des amants. Il cherchait la violence aussi comme forme d'amour quelque part, parce que quand on souffre, on se sent vivant. Donc je pense que tout ça, ça fait partie de ce personnage que, comme vous dites, on ne connaît pas très très bien, mais qui est un monstre parfois de dureté avec ses amis. Il peut être très très méchant, mais aussi d'une fragilité.
Et ses homologues.
Voilà, et ses homologues, parce qu'il dit des choses assez, assez, assez drôles et violentes parfois, oui.
Alors, le propos du spectacle évoque beaucoup, bien évidemment, les questions de la représentation, du sacré et du profane, de cette espèce d'interdiction d'ailleurs qu'avait le profane de pénétrer l'univers du sacré, puisque les commandes étaient souvent des commandes issues du clergé, ou en tout cas avaient vocation à venir représenter des scènes bibliques. Il trichait un petit peu en introduisant des modèles qui n'étaient pas toujours des exemples de vertu.
Je ne suis pas d'accord, il ne trichait pas. Il utilisait des modèles qui, à son avis, étaient beaucoup plus cohérents avec les images. Parce que Jésus, nous, on l'imagine peut-être blond, avec les yeux bleus, parfaitement propre sur lui, alors que c'était pas vraiment le cas, je pense. Et donc lui, il dit, mais pourquoi ne pas représenter Jésus avec un voyou, avec la barbe, ou quelqu'un qui sort de prison. Il a utilisé comme modèle pour la Vierge des prostituées, noyées, enceintes. Donc il a frappé fort, il a tapé fort, ça c'est sûr. Mais pour lui, c'était peut-être, oui, un mélange de provocation, mais c'était aussi cohérent par rapport à son idée de montrer le vrai. Alors, c'est vrai que, déjà d'autres, Léonard avait commencé déjà à mettre de la vérité dans ses tableaux, mais lui, il avait, et ça il le dit, c'est la seule phrase qu'on connaît vraiment de Caravage. Dans un procès, on lui demande quels sont les bons peintres, et il dit ceux qui savent imiter la vérité, la réalité, la nature. Donc pour lui, c'était ça, la création, c'est pas faire des personnages qui n'existent pas, il avait besoin de modèles, et comme il ne pouvait pas se payer les modèles très très chers de Rome, donc c'était souvent des prostituées, des voyous, des clochards. Et c'est pour ça qu'il a introduit des sujets rudes, alors qu'il était censé représenter des apôtres, des vierges, des Jésus ou d'autres personnages bibliques.
Très bien. Alors, un autre aspect qui est assez présent dans le texte, c'est l'Inquisition. Donc à une époque où on a de cesse de parler du politiquement correct et où les auteurs, notamment les humoristes, sont un petit peu la cible d'une bien-pensance, on voit bien que son travail au Caravage a été très 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 marqué, et pas uniquement son travail d'ailleurs, mais aussi sa vie privée, puisque c'est quelqu'un qui a fait le choix, on va dire, d'assumer une forme d'homosexualité, qui n'était pas d'ailleurs qu'une homosexualité, mais il a fait le choix de vivre avec un homme, et à l'époque on peut imaginer que c'était pas monnaie courante, ou en tout cas ça ne se disait pas sur tous les toits. La pièce s'en amuse beaucoup.
Il ne faut pas oublier que l'auteur, Dominique Fernandez, qui fait souvent son cheval de bataille dans ses romans, c'est souvent cette cette défense d'une liberté sexuelle que, justement, qu'on peut montrer en étant homosexuel et sans aucune crainte. À l'époque, avec l'Inquisition, tout ça n'était pas possible. Au début, il y a un procès parce qu'on a vu deux garçons avoir une attitude un peu comme ça, un peu ambigu, un des deux, on lui a tranché la main, on l'a brûlé vif. C'est des choses qu'on faisait régulièrement à l'époque. Donc c'est normal pour l'époque que Caravage ait eu tout le temps des soucis avec l'Inquisition qui était tellement présente. J'ai pu le constater avec un autre spectacle que j'ai fait sur Galilée, pas pour les mêmes raisons, mais il ne pouvait pas dire certaines choses parce que l'Inquisition réglait tout, la façon de s'habiller, la manière de penser, la manière de vivre, et tout ça caché sous une couche d'hypocrisie incroyable, parce que la plupart des cardinaux, on le sait très bien, étaient quand même des homosexuels, qui étaient très contents d'avoir des tableaux un peu obscènes chez eux, et c'était souvent des tableaux qu'on avait refusés dans les églises, et eux, ils les achetaient à bas prix pour les mettre dans leur salon, dans leur galerie. Donc cette hypocrisie, tous les cardinaux étaient au courant, et c'est intéressant avec tout ce qui se passe, pas maintenant, mais il y a quelques années, avec le Vatican, l'église, donc on découvre comme si c'était complètement une nouveauté, que la sexualité est très importante, que quelqu'un, que n'importe qui a le droit de faire ce qu'il veut de son corps, de sa façon d'aimer, qu'il n'y a pas des règles. Et pour moi, Caravage aussi, c'est un modèle de liberté. Pour ça aussi, c'était pas que un homosexuel, parce qu'il dit régulièrement qu'il fréquentait des prostituées. Je pense qu'il poursuivait la beauté, que ce soit dans un homme, chez une femme. Et voilà.
L'affection et l'amour aussi.
L'amour, l'affection et la tendresse qu'il pouvait retrouver chez un homme ou chez une femme. Et c'est vrai qu'après, on comprend bien que chez lui, c'était les relations qu'il a eues avec les hommes ont marqué beaucoup plus sa vie que la relation avec les femmes. Peut-être il y a sa mère qui est très importante. Mais c'est surtout les relations avec ses jeunes amants, ses modèles, et notamment ce Mario dont on a parlé déjà, qui était à ses côtés pendant quasiment toute sa vie.
Alors c'est vrai que c'est assez finalement surprenant. C'était pas forcément, à mon avis, l'intention de l'auteur, mais quelque part le parcours qui est dépeint dans le spectacle et dans le roman de Dominique Fernandez fait finalement écho à une actualité, y compris religieuse, avec un pape qui semble plus ouvert à certaines questions, qui ne peut pas complètement remettre en question le dogme, mais qui, d'un point de vue pastoral, semble s'ouvrir quand même à la modernité de l'époque dans laquelle il vit.
Je suis tout à fait d'accord. J'aime beaucoup Francesco. Bien sûr, c'est un pape, donc il ne pourra jamais dire certaines choses ouvertement, il ne pourra pas soutenir certaines causes, c'est normal, mais je trouve que son attitude par rapport au pape précédent, par exemple, est beaucoup plus ouverte, beaucoup plus tranquille, plus calme. Il parle de choses plus importantes, il ne parle pas de préservatifs, c'est pas le pape qui doit parler de ça. Je trouve ça vraiment ridicule. Et donc, je suis très content que Benoît XVI ait pris sa retraite.
Très bien. On partage aussi ce point de vue. Alors, on va rentrer maintenant, pour terminer cette interview, un peu plus sur la question de la mise en scène. C'est pas faire outrage à ce spectacle que de dire que la scénographie est quasiment absente, ouais. En tout cas par ces éléments de décor, où il y a finalement un troisième personnage qui vient s'introduire comme ça au fur et à mesure du déroulement de l'histoire, qui est la lumière. Et tout est finalement construit, y compris, j'allais dire, les œuvres du Caravage elle-même, par l'intervention assez presque miraculeuse de la lumière.
Ah, j'aime bien miraculeuse. Bon, c'est vrai que pour revenir au début de votre phrase, le décor est très très léger. Notre productrice est contente parce que c'est un spectacle qui tient dans une valise. Et quand on est en tournée, tout le monde est étonné de voir « Ah oui, vous n'avez que ça ?» Oui, on n'a que ça. On n'a que quelques boîtes dans lesquelles on cache des photos forts. On a un petit tabouret, une grosse boîte qu'on appelle nous le four parce qu'on met des bougies à l'intérieur. Mais c'est tout. On n'a pas de décor. On n'a pas de décor. Mais c'est vrai que la lumière, c'est le troisième comédien sur scène. Et ça, c'était vraiment mon désir. En lisant le roman, mais déjà en ayant connu l'œuvre de Caravage, Caravage a vraiment su mettre la lumière à un niveau incroyable. Jusque-là, un peu, quelques Lombards avaient déjà commencé à faire ça, Léonard da Vinci aussi, mais autrement, la lumière était assez uniforme, homogène, plate partout. Alors que lui, il a fait ce qu'après on a fait au cinéma. Je reviens à Hitchcock, je reviens à plein d'autres, et à la photo, dans la photographie. Donc il a utilisé la lumière pour donner une interprétation de la réalité. Et là aussi, c'était toujours son intérêt de montrer la réalité vraie pour lui. Donc une lumière froide, ben, ça plombe les traits, ça rend les personnages pas beaux. Et surtout, ça donne un effet de réalité. On a une source qu'on ne voit quasiment jamais. Il n'y a qu'une seule toile de Caravage dans laquelle il met une torche. Autrement, on ne voit jamais d'où vient cette lame de lumière, cette source mystérieuse. Et c'est ça qui fait le charme. Et moi, je voulais que dans le spectacle, il y ait la même chose. Donc, les gens qui sont éblouis par la lumière dans ce spectacle, c'est que cette lumière essaie de reproduire le charme de ces toiles. Donc, on voit souvent des lames de lumière, de faisceaux. On est souvent éclairé à la bougie, il faut le dire ça aussi, avec des petits supports techniques, mais qui sont cachés, donc on ne voit pas l'astuce artificielle. Et ça, pour moi, c'est un des plus beaux compliments, parce qu'on voulait vraiment rendre hommage à Caravage, mais pas en faisant une conférence avec une projection de diapositives, mais justement en essayant de recréer le choc qui ont dû créer ces tableaux la première fois qu'ils ont été présentés, parce que c'était quelque chose de complètement innovant et innovateur. Et nous, on ne peut pas le comprendre, mais pour les gens de l'époque, de voir un tableau qui est quasiment plongé dans le noir, c'était quelque chose d'inimaginable, d'aberrant presque. Et lui, il a eu le courage de faire ça. Et ça, ça lui permettait de mettre en relief un visage qui était la chose la plus importante. On s'en fout de ce qui se passe derrière les colonnes, les drapés. C'est pas important. Pour lui, le visage, c'était la chose la plus importante. Et avec un rayon de lumière, il la met en valeur. Et ça, c'est formidable.
L'expression de l'âme, au travers de la lumière, comme ça, projetée sur les personnages qu'il peignait. Alors, pour terminer cette interview, est-ce que vous avez envie d'évoquer un élément de manière très ouverte du lieu, de la scénographie, de la mise en scène, de la direction d'acteur que vous auriez envie de mettre en avant pour inciter nos auditeurs et lecteurs à venir voir justement cette pièce de théâtre?
Waouh. C'est difficile, à part le personnage Caravage qui est déjà magnifique, donc je pense que tout le monde a déjà vu ne serait-ce qu'un tableau quelque part, ou sur un cahier en couverture, ou sur un disque, ou sur une publicité, parce qu'on l'utilise énormément. Donc déjà Caravage, c'est une raison pour venir voir ce spectacle. Après, moi avec mes partenaires, donc Laetitia Favard et Manon Leroy qui jouent en alternance, voilà. Il y a le roman de Dominique Fernandez. On a fait un travail très, à mon avis, très subtil au niveau du jeu. On a eu la chance de travailler avec Nita Klein, qui est une actrice formidable et qui nous a vraiment permis de rentrer à fond dans ce texte qui n'est pas tout le temps évident. Donc, et après, oui, les lumières. Je pense que si tout ça ne suffit pas à donner envie au public, ben, restez chez vous. Comme dirait Caravage, restez chez vous.
Très bien. Mais écoutez, le spectacle est donné au Lucernaire jusque la mi-mars, si ma mémoire est bonne.
Tout à fait, au 12.
Jusqu'au 12 mars. Et donc, n'hésitez surtout pas à venir voir ce spectacle au Lucernaire. Alors, avec une petite précision qui a son importance, le mardi, le spectacle est donné en italien.
Oui.
Pour les amateurs de cette belle langue chantante, vous avez la possibilité de la voir donc, soit en français, soit en italien. Écoutez, Cesare, je vous remercie infiniment pour ce temps passé et je vous souhaite plein de succès pour les prochaines représentations.
Merci, merci à vous.
Au revoir.
Super. Non, mais je pense qu'on a bien saisi tous les éléments. Bravo pour les questions.